bienvenue dans votre émission. Province de l'Ituri, l'administrateur du territoire de Djougou, Rifin Mapela, a condamné hier lundi le meurtre de 15 civils à Tali par un groupe de miliciens de la Codeco. Dans une déclaration à la presse, il s'est dit fortement inquiet de la recrudescence d'attaques de cette milice, ainsi que des représailles du groupe d'autodéfense dans plusieurs entités du territoire, dont Moussaba, Mabendi et Café. Des actes qui, selon lui, compromettent les accords de paix signés l'année dernière à Arou. Ce cycle de violence a repris après une accalmie totale observée sur l'ensemble du territoire de Djougou. Signalons qu'il y a une semaine, des centaines de jeunes appartenant aux milices Codeco et Zahir dans les secteurs de Baema Badjere, Walendu, Dachi et dont Okimbu dans les territoires de Djougou s'étaient engagés à ne plus commettre des exactions contre les civils membres des différentes communautés. Pendant ce temps, dans les territoires d'Irumu, les rebelles EDF multiplient des attaques contre la population civile. Hier lundi, 13 personnes ont été tuées, 8 autres blessées et des maisons incendiées au cours d'une double attaque de ces rebelles à Badiobongo, Sia, un groupement de la chefferie de Walese Vonkutu. Quelle analyse faire de la situation sécuritaire dans la province de l'Ituri? C'est l'objet du débat de ce soir et nous recevons à cet effet Dieudonné Lossa, il est coordonnateur de la société civile de l'Ituri. Bonsoir monsieur Dieudonné Lossa.
Bonsoir monsieur.
Professeur Casimir Ngumbi, il est politologue et expert dans les domaines des violences politiques et des groupes armés. Bonsoir professeur Casimir Ngumbi.
Bonsoir monsieur le journaliste, bonsoir à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Et Bungi Shabako Kato, il est notable du territoire de Rumu, il est député national et professeur, spécialiste en théologie politique à l'université Shalom de Bunia et dans plusieurs autres universités dans les pays à l'extérieur du pays. Bonsoir Bungi Shabako Kato. Voilà, on me dit qu'il n'est pas encore là, il va nous rejoindre. Bienvenue à tous une fois de plus dans cette émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net.
Nous l'avons dit, en Ituri, l'administrateur du territoire de Djougou condamne le massacre des 15 civils samedi à Tali par des miliciens de la Codeco. S'est confiant hier lundi à la presse, Rifin Mapela redoute les représailles du groupe d'autodéfense dans les localités de Moussaba, Mabendi, Mbidjo, Mbogi et Café, des actes qui compromettent les accords de paix signés l'année dernière à Arou. Il a été joint par Ezekiel Mouzalia.
Nous avions observé une accalmie totale dans l'ensemble du territoire de Djougou. Mais nous n'avons pas compris comment le cycle de violence a repris. Il y a eu des problèmes aux côtés du groupement Moussaba au niveau de Mbidjo, au niveau du village Mbogi où les autodéfenses et les groupes armés Codeco se sont s'affrontés pendant autant de jours. Il y a eu des problèmes qui s'est passé sur la route, toujours sur cette route-là, au niveau du village Tali où Codeco ont tué 15 personnes de CGMA. Nous regrettons parce que tout ce que nous sommes en train de fournir comme effort pour que la paix revienne dans ce territoire de Djougou, nous retournons toujours dans les cases de départ. Nous savons qu'il y a des mains noires qui continuent à faire de gauche à droite. Nous demandons seulement à la population, aux communautés là, d'éviter les représailles. Parce que ce n'est pas ce moment-là de revenir encore dans les cycles de violence dans les territoires de Djougou.
En Ituri, toujours 13 personnes ont été tuées, 8 autres blessées, des maisons incendiées au cours d'une double attaque, toujours hier lundi, des rebelles des EDF dans le groupement Badiobongo Sia, dans la chefferie de Walese Vonkutu. Selon des sources locales, ces exactions sont commises après plusieurs mois d'accalmie. Les acteurs de la société civile et l'ONG CRDH demandent à l'armée de multiplier des offensives contre l'ennemi. Ezekiel Bouzalia, une fois de plus.
Cette attaque intervient après plus d'une année d'accalmie observée dans plusieurs entités au sud du territoire d'Irumu où les forces conjointes FARDC-UPDF poursuivent des opérations contre les ADEF. La première attaque de ces rebelles est intervenue samedi dernier dans la chefferie de Banyari Tchabi où ils ont tué 3 personnes et blessé 5 autres, indiquent des sources locales. Un autre groupe de ces inciviques a fait irruption dans le village Bandibongo Sia au sud-est du territoire dans la chefferie de Walese Vonkutu. Ils ont commis plusieurs exactions contre les civils composés essentiellement des retournés. ONG Convention pour le respect des droits de l'homme qui assure le monitoring sécuritaire dans cette zone avance un bilan de 10 personnes tuées, 2 blessés ainsi que 15 maisons incendiées. Les victimes sont en majorité des femmes pygmées retrouvées dans leur domicile, indique Christophe Mounyanderou, coordonnateur de cette organisation. L'intervention des militaires des forces conjointes installées à 4 km du lieu du drame a permis de repousser l'ennemi. Selon des sources locales, les services de sécurité doivent procéder à l'identification des personnes qui collaborent encore avec ces rebelles pour les déférer devant les juges. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Merci à vous, Ezekiel Mouzalia. Bungi Shabako Kato, est-ce que vous êtes là?
Oui, je suis là.
Voilà, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Je rappelle que vous êtes notable du territoire de Rumu, vous êtes député national et professeur, vous êtes spécialiste en théologie politique à l'université Shalom de Bounia et dans plusieurs autres universités dans le pays et à l'extérieur. Et après les fronts de Goma avec les M23, les fronts de Beni avec les EDF, et aujourd'hui on parle, n'est-ce pas, de ces fronts de l'Ituri avec les EDF et les groupes aux armées locaux. Comment vous expliquez ces regains de violence dans cette province de l'Ituri?
En fait, la situation est très confuse, elle est complexe, mais je crois que nous portons une grande responsabilité puisque, comme je venais de le suivre avec Mouzalia, on repousse quand l'ennemi vient, il attaque, on repousse, mais après on ne fait rien et on attend qu'il attaque encore et on va encore repousser. Je crois que le problème qui se pose ici, c'est celui d'aller à la racine de tous les maux qui rongent notre province. Si je veux parler de la province de l'Ituri en particulier, il y a tellement de problèmes, que ce soit avec des groupes armés locaux, que ce soit avec les EDF. Je crois qu'il y a besoin que nous puissions aller à la racine, comprendre. Je prends un exemple simple. Les ADF, c'est un phénomène, ce sont des rebelles ougandais. Mais en Ouganda, quand ils attaquent, ils font ce que les Anglais appellent « hit and run ». Ils n'attaquent pas et ne restent pas en Ouganda parce que le système ougandais essaye de contrôler et c'est un peu compact pour... essayer de contenir ces rebelles. Mais quand ça arrive chez nous, ils restent. Et lorsque on arrête les gens au nom des ADF, vous allez dans des prisons, dans nos prisons, par exemple à Bounia, on vous dit que 70% de ceux qui sont arrêtés au nom des ADF sont des Congolais, ce ne sont pas des ADF, ce ne sont pas des Ougandais. Et quand vous arrivez à Komanda, dans la région de Oicha, c'est lié avec tous les systèmes du commerce. Alors, quand vous arrivez dans la région de Tchabi, il y a une année et demie, il y avait une attaque terrible là-bas. Les gens ont accusé les Banyabouisha qui opèrent avec les ADF. Alors, je crois qu'il y a quelque chose qui échappe encore. Et nous devons comprendre c'est quoi l'ADF, quel est le problème de l'ADF. Aussi longtemps que nous attendons qu'ils viennent attaquer, on les repousse et on s'arrête, on attend ça, comprendre qu'est-ce qui se passe et analyser correctement cette situation, ça fait un problème. Ils recrutent comment, ils collaborent avec qui, ils font quoi. Ça, c'est un problème complexe qui nous, dont la compréhension nous manque encore. Ça, c'est un peu par rapport aux ADF.
Voilà, et par rapport aux CODECO qui ne sont pas moins virulents que les EDF?
Alors, pour CODECO qui ne sont pas moins virulents que les ADF, je pense qu'ici encore, nous avons besoin d'aller en profondeur et de comprendre comment nous en sommes arrivés là. Nous sommes nés, on a grandi avec ce phénomène de conflit en Ituri entre deux groupes ethniques. Aujourd'hui, c'est allé à plusieurs groupes ethniques. Alors, nous avons vu ces choses grandir. C'est pour dire que si ça résistait, il y a une recherche assez sérieuse qui a été menée récemment et qui a montré qu'il y a eu jusque-là 8 cycles de conflits en Ituri. Donc, ça, ce sont des problèmes locaux. Mais malheureusement, on n'a jamais été en mesure de s'asseoir et de comprendre. Je crois que nous en sommes là où nous sommes parce que nous n'avons pas beaucoup fait nous-mêmes, comme Ituriens d'abord, et aussi le gouvernement. Nous ne serions pas arrivés là où nous sommes arrivés si on avait la volonté. Donc, il y a une recherche qui a montré qu'il y a 8 cycles de conflits et que la peur de tout le monde tout de suite, c'est que nous serons au 9e cycle. Et que cette recherche a aussi montré que chaque nouveau cycle est plus violent que l'ancien cycle. Mais qu'est-ce qui nous reste encore qu'est-ce qu'on attend pour ne pas nous asseoir et nous dire quel est le problème? Pourquoi nous continuons à nous entre-déchirer? Voilà. Les frustrations qui grandissent entre nous, les déséquilibres qu'on ne sait pas résoudre. Certains ne veulent même pas qu'on rentre dans le passé. Il faut arrêter tout de suite. Le gouvernement doit tuer tous les rebelles. Même si on tuait tous les rebelles aussi longtemps qu'on n'a pas résolu le vrai problème, on n'a pas adressé la vraie question qui nous déchire, je crois qu'on n'aura pas une solution.
Voilà, avant qu'on ne puisse toucher au fond des problèmes, professeur, vous avez dit que le nouveau cycle semble plus violent que l'ancien. Et là, on le constate, hein, la CODECO, comme les EDF, sont devenus plus virulents. Ils se permettent même d'enterrer des gens vivants. Et à travers ces actes abominables, ces actes dégoûtants, et quel est le message que ces miliciens veulent transmettre, professeur Bungui?
Alors, je pense que par rapport au message, c'est un message à nous tous, que Ituri, nous les Ituriens, la communauté iturienne a échoué jusque-là. Nous n'avons pas pu nous mettre ensemble et accepter que nous avons échoué collectivement. Et que nous puissions, puisque il me semble que ce que ces miliciens font, c'est un signe d'une maladie qui ronge toute la société. C'est ça le vrai message. Nous sommes malades comme communauté. Peut-être pas toute la province, mais les territoires concernés. Nous sommes malades comme communauté. Et lorsqu'on est malade, il faut qu'on trouve des soins appropriés. Il faut poser des diagnostics corrects. Mais aussi longtemps qu'on est en train d'esquiver, on ne peut pas le faire, et toutes les condamnations s'adressent au gouvernement, le gouvernement doit agir. Alors, le gouvernement a ses responsabilités, mais nous, Ituriens, nous avons notre responsabilité. Voilà le message, c'est le message de l'échec de nous-mêmes comme communauté iturienne.
Alors, après plusieurs années, on sait que ces conflits perdurent. Ça fait plusieurs années que les populations sont en train d'être massacrées par les groupes armés locaux ainsi que les EDF. Vous voulez dire que après toutes ces démarches qui ont été menées, notamment les dialogues qui ont été organisés, et notamment les actes d'engagement signés par certains miliciens, vous voulez dire aujourd'hui que on n'a jamais su les problèmes, on n'a jamais décelé les problèmes de fond. Donc la maladie qui ronge ces communautés, c'est quand même étonnant, professeur.
Alors, je pense les dialogues, les actes d'engagement, pour moi, ces actes d'engagement, c'est pour arrêter la violence, que le sang cesse de couler. Et ça, c'est très important et ça reste très urgent. Mais après que le sang ait cessé de couler, je crois qu'il y a nécessité pour les Ituriens de s'asseoir. Et pour moi, le gouvernement doit prendre cela en compte. Il y a nécessité pour que les Ituriens se mettent et qu'ils approfondissent les causes de tous ces troubles. Qu'est-ce qui nous a amenés jusque-là? Pourquoi nous en sommes là? Les inégalités qui ont existé, l'injustice qui est là, les déséquilibres qui est là, et tout ce problème. Un chercheur américain, Bruce Malin, a parlé de ce qu'on appelle « limited good », c'est-à-dire les biens de ce monde sont limités. La terre est limitée. Si les gens se battent à cause de la terre, mais comment on peut faire pour rééquilibrer? Ça, c'est juste un exemple. Je ne dis pas que c'est là le problème. Donc, s'il y a dialogue, s'il y a acte de cesser le feu, ça, c'est pour un effet immédiat que les hostilités cessent. Mais aussi longtemps qu'on ne s'est pas mis ensemble et aller en profondeur, chercher les vraies causes les étaler sur la table et se dire, en tant qu'Ituriens, voici nos problèmes. Et le gouvernement devrait venir nous aider pour nous accompagner à résoudre tous ces problèmes les uns après les autres. Ça, c'est ma façon de voir le problème, au lieu de s'arrêter seulement aux actes d'engagement et tous les actes d'engagement, c'est pour cette génération. Viendra une nouvelle génération qui va aussi se sentir frustrée et qui va faire la même chose, ce qui n'est pas correct. Nous devons finalement arrêter ce cycle-là.
Et donc, vous voulez dire que les opérations du genre opération conjointe FARDC-UPDF, c'est des opérations qui servent seulement à solutionner les effets, mais ça n'aide pas à toucher au fond du problème.
Je crois que oui. Je crois que le même du côté ADF, l'opération UPDF, FARDC, c'est pour aider pour le moment, mais aussi longtemps qu'on n'a pas compris en profondeur qu'est-ce qui se passe, on ne saura pas résoudre ce problème. Aussi, je crois, la question de l'insécurité va avec l'état même de notre pays. Si nous sommes dans un état qui ne fonctionne pas très correctement, je pense que ça, le problème va continuer à nous suivre parce que voyons un peu comment les ADF ont commencé. Si on vous demandait aux Ituriens, quelle est l'histoire des ADF? Ça a commencé comment? Ils opèrent comment? Ils traitent avec qui? À gauche et à droite, on attrape des personnes qui collaborent avec eux, qui les ramènent des médicaments. Mais qu'est-ce qui nous manque pour ne pas comprendre en profondeur la complexité de tous ces phénomènes et aller en détail pour déceler à tous ces liens qui font que ces phénomènes ADF résistent.
Merci, professeur.
Par exemple, quand on accuse le Banyabouisha de collaborer avec les ADF, qu'est-ce que nous faisons de ces phénomènes Banyabouisha là-bas? Ils sont là avec nous, on les accuse de collaborer, il y a même des témoignages clairs, mais qu'est-ce qu'on fait? Parce que qui a amené les Banyabouisha là? Comment ils opèrent? Qu'est-ce qui se passe entre eux? Ça semble ne pas trop nous intéresser pour le moment. On ne voit que la plaie, mais on ne voit pas qu'est-ce qui cause cette plaie.
Oui, nous sommes dans un média, vous citez une communauté, à partir du moment où on n'a pas quelqu'un de cette communauté-là, n'est-ce pas, pour présenter ses moyens de défense, ce n'est pas bon de continuer à citer cette communauté. Hein. Vous risquez de faire penser, de croire à tout le monde que c'est la cause, n'est-ce pas, de l'insécurité dans cette province est dû à la présence de cette communauté dans la province, c'est ce qui ne serait pas une bonne chose. On va vous redonner la parole, professeur Bungi. Dieudonné Lossa, vous êtes coordonnateur de la société civile de l'Ituri. Comment vous, en tant que société civile, vous analysez les regains de l'insécurité dans cette province après plusieurs mois d'accalmie?
Nous saluons l'honorable professeur Bungi et aussi professeur Casimir, ainsi que tous les co-débattants. Tous les auditeurs à ce moment. Ce qui se passe à Ituri, c'est, comme nous l'avons toujours dit, c'est le fait que ces miliciens se trouvent libres de faire quoi ils peuvent. Parce que, bien qu'ils ont signé les actes de cessation des hostilités, les actes sont signés aussi d'une manière unilatéral et aussi pour l'exécuter, c'est vraiment de leur bonne foi qu'ils peuvent exécuter. Donc c'est ça la vraie raison qui fait que toutes les fois que les hostilités peuvent se reproduire à Ituri, c'est parce que les miliciens qui se sont engagés eux-mêmes pour arrêter les hostilités jugent bon de reprendre eux-mêmes. Donc comme personne ne les contrôle, personne ne les inquiète, il faut ce qu'ils veulent.
Dieudonné Lossa,
oui.
Lorsque vous dites que c'est des actes qui ont signé de manière unilatérale, vous voulez dire que les miliciens sont seuls, il n'y a pas en face les représentants de l'État congolais?
Bon, je dirais que les représentants sont là, mais quand vous voyez comment cet acte signé, comment ça c'est leur application, vous savez qu'ils sont libres de se comporter comme bon leur semble.
Ils sont libres pourquoi? Parce qu'après, il n'y a pas eu des suivis qui peuvent être assurés par une structure comme les PDD-RCS.
Il n'y en a pas. Il n'y a pas de suivi. C'est comme ça que, quand ils ont signé les actes, après, ils reprennent les hostilités. Les communautés, il y a des efforts qui se sont qui se produisent même au niveau des communautés pour chercher à amener ces jeunes gens-là à la raison, mais on sait finalement que comme il n'y a pas de mesures contraignantes qui peuvent les remettre à suivre leurs propres engagements, ils reviennent faire n'importe quoi. Et même quand ils posent ces gens des actes, vous ne sentez pas qu'ils sont inquiétés. Donc c'est entre autres ce qui leur donne tout ce courage.
Alors, vous parlez des mesures contraignantes, vous voulez parler de quoi?
Oui, mais quand les miliciens tuent la population civile, parce que chaque fois, tous ces bilans que vous venez d'énumérer, ce sont les bilans de massacres commis sur la population civile. Et ces civils, ils ne sont même pas des miliciens. On tue la population civile et personne. On ne voit pas que les miliciens qui ont tué les civils ont été pourchassés. On ne voit pas que on les a suivis là où ils se trouvent, parce qu'ils sont presque géolocalisés. Là où ils sont, ce sont des zones qui sont aussi presque bien connues. Donc on ne sait pas qu'il y a une action vers ces gens-là pour aller les inquiéter. Il n'y en a pas.
Oui, ça, vous parlez d'action. En fait, il n'y a pas d'action contraignante, n'est-ce pas? Et ça, c'est l'effet de l'État congolais, du gouvernement congolais. Mais aussi, vous avez suivi le professeur Bungi, voilà, qui lui explique, analyse ces phénomènes par le fait que vous-même, enfant de l'Ituri, fils de l'Ituri, vous n'avez jamais pu déceler la cause principale, la maladie qui ronge les différentes communautés.
Je pense que nous sommes comme les enfants dans une famille. Dans une famille, les enfants ont les parents. Et lorsque les parents constatent que quelque chose revient plusieurs fois au niveau de la famille, les parents aussi sont à mesure de déceler les problèmes. Ce n'est pas seulement que les enfants eux-mêmes puissent trouver la cause de leurs problèmes, mais si le parent a des idées, ils connaissent d'où vient le problème, les parents peuvent intervenir. Et si on laisse aux enfants alors de continuer de chercher la solution à leurs problèmes, mais on risque de perdre tous ces enfants-là. C'est ce que nous regrettons.
Lorsque vous parlez des parents, là vous faites allusion au gouvernement congolais.
Le gouvernement, c'est là notre parent. Et lorsque, même dans une famille, quand les deux enfants se battent, le parent cherche à savoir pourquoi les enfants se battent, et le parent est à mesure de remettre chacun là où il est faux, là où il doit se retrouver. Pour dire que monsieur Y, vous êtes mal comporté envers telle personne. Mais si on ne sait pas faire ça, on laisse aux enfants de gérer, de continuer à faire ce qu'ils peuvent faire jusqu'à découvrir les problèmes, un jour, on risque de perdre tous ces enfants. Et je crois que les parents même ne seront pas à l'aise.
Oui, nous avons parlé de toutes les tentatives qui ont été, n'est-ce pas, initiées pour essayer d'apporter une solution pacifique, notamment les différents dialogues. On a cité les noms de certaines personnalités, de certains notables, notamment les Samy Adubango et tout ce monde-là, qui se sont impliqués dans, n'est-ce pas, la résolution de cette question de manière pacifique. Et vous pensez que ça, ce n'était pas l'apport de l'État congolais, parce que ça, c'est des agents de l'État qui ont essayé de réunir tout le monde, de mettre tout le monde autour d'une table pour trouver la solution au problème.
Moi, à mon niveau, je pense que c'est vraiment des efforts conjugués. La communauté s'est mise aussi au travail, aux côtés des gouvernements. C'est ce qui a amené jusqu'au dialogue, c'est ce qui a même amené jusqu'à signature de ces actes de cessation des hostilités. Il y a des membres des communautés, les acteurs sociaux qui se sont mis en œuvre pour qu'on y arrive. Ce n'est pas l'affaire du gouvernement seul. Mais cela ne suffit pas, parce que à plus de ce que la communauté peut mener comme des actions, le gouvernement a le pouvoir de juger, de trancher pour mettre fin à certaines choses si vraiment il est nécessaire. Et c'est ce que nous souhaiterions que ça se fasse, parce que on ne laissera pas infiniment les gens mourir en Ituri. Nous sommes 2024 aujourd'hui. C'est depuis décembre 2017 que l'Ituri est rentré encore dans ce cycle. Les 16, ce qui s'est passé en Ituri est vraiment étrange à notre connaissance parce que nous n'avons pas encore assisté à ce genre de cette forme de massacre. D'attirer les gens vivants, on n'a pas encore assisté à ça en Ituri et ça a surpris tout le monde. Et puis, on ne peut pas continuer à regarder ce genre de situation comme ça. Il faut que l'État agisse comme père pour trancher ces problèmes et me remettre, donc sanctionner celui qui mérite une sanction. Ce n'est Merci. Pas du tout mauvais,
Merci,
mais donner la sanction à celui-là qui mérite.
Merci, on a compris. Professeur Casimir Ngoumbi, politologue et expert dans les domaines de violence politique et des groupes armés, quelle est votre lecture sur cette escalade des violences de la part des miliciens contre les civils dans la province de l'Ituri?
Voilà, je ne sais pas si ma ligne va être bonne, mais ce qui est vrai, c'est que ce qui arrive maintenant est à considérer comme une preuve de la confusion et du flou dans la guerre de l'Est, monsieur le journaliste. Personnellement, je n'ai jamais eu foi dans la mutualisation sincère de force entre la RDC et l'UTDF, hein, au sujet de la traque des ADF et les autres groupes armés opérant à l'est du pays. Pire encore, je considère que l'Ouganda, distrait par cette soi-disant mutualisation, et compose avec les Rwandais, avec lesquels il forme un vrai front contre la RDC. Ceci étant, ces deux pays multiplient les fronts contre la RDC pour affaiblir la puissance de feu de nos FRDC soutenus par les Wazalendo. Mais de l'autre côté, monsieur le journaliste, pour l'Ituri, il n'est pas étonnant que la militarisation politique soit au cœur de nouveaux affrontements au motif de servir de revendication politique. Je voudrais dire que certains acteurs politiques de l'Ituri pourraient composer avec des groupes armés, dont la CODECO, pour servir de revendication, comme je venais de le dire, monsieur le journaliste. Le refus, par exemple, par le gouvernement de lever l'état de siège et d'organiser les élections de gouverneurs d'autres entités pourrait également justifier une sorte de frustration des acteurs politiques de l'Ituri. Aussi, je venais de lire l'International Crisis a publié une intéressante étude qui a porté sur les acteurs entre antagonismes locaux et intrusions extérieures dans la province de l'Ituri. Cette étude montre noir sur blanc que les acteurs distribuent les armes aux populations lindoues, particulièrement pour la CODECO, et ces dernières peuvent être aussi mobilisées pour formuler les inputs de l'Ituri. Moi, je pense que cette question, elle est pertinente, elle est importante, et que la hiérarchie au niveau national doit revoir ses tirs pour que, n'est-ce pas, on puisse suivre le processus électoral tel qu'il a été initié, tel qu'il a évolué et tel qu'il arrive à cette époque, à cette période ici.
Oui, vous
et
dites.
Donc, on peut dire.
Oui, professeur Casimir.
Oui,
oui, vous avez évoqué les hommes politiques. Hein. Vous dites qu'il y a certains hommes politiques qui peuvent pactiser avec les miliciens pour faire valoir, n'est-ce pas, certaines revendications. Mais on sait, hein, il est de notoriété publique que les miliciens, surtout tous ces miliciens, hein, les groupes armés locaux et étrangers, ils opèrent sans pour autant, n'est-ce pas, dire pourquoi ils opèrent contre la population. Ils n'ont jamais fait des revendications.
Les agendas sont multiples, monsieur le journaliste. Les agendas sont à la fois à situer sur le plan interne de l'Ituri, mais à même pas sur le plan externe. D'abord, sur le plan interne, vous savez que le choc de la mort d'Ngoudjolo n'a pas également disparu, hein, dans l'imaginaire collectif de l'Indou en particulier, et aussi de l'Ituri en général. Vous avez aussi l'exploitation des richesses de l'Ituri par les étrangers. Cela n'a pas disparu dans les commerces des mortels de la province de l'Ituri. Mais je peux faire aussi une lecture géopolitique des groupes armés en Ituri qui renseigne la confusion délibérément créée entre eux. Vous prenez par exemple les forces patriotiques et intégrationnistes du Congo, FPI, qui se trouve situé à l'ouest de l'Irumu, qui composait majoritairement par les Bira, connue également sous le nom de sa localité d'origine Tchini à Kilima, elle se sent aussi marginalisée au profit des MA. Vous prenez aussi le Front Populaire d'Autodéfense Congo, groupe Zaïre, présents dans les territoires où sévissent les factions de la Côte d'Écho. Je cite ici les territoires de Djougou, de Mahagui et de Roum, et prétend protéger les sites aurifères des 5 communautés victimes, dont les Hema, les Alour, les Ndo Kebo, les Mambisa et les Nyali. Et donc, les représentants ont même créé le G5, même si scientifiquement, l'unanimité n'est pas facile à démontrer pour cette approche militaire. Il paraît que les FRDC aussi collaboreraient avec les EMA, utilisés comme éclaireurs dans les opérations militaires. Donc, quand vous ramassez, monsieur le journaliste, tout cela, vous comprenez donc cette confusion créée délibérément à l'interne comme à l'externe ne peut que agiter les acteurs pour obtenir des résultats auxquels on assiste aujourd'hui.
Et donc, voilà. Les mécanismes comme PDD, RCS, les opérations militaires contre les groupes armés, et même les dialogues qui est souvent initié par certains enfants, certains fils, n'est-ce pas, de la province, tout cela ne suffira pas pour apporter la solution aussi longtemps qu'on ne va pas évoquer les questions que vous venez d'évoquer ici, notamment les frustrations dans certaines communautés.
Affirmatif, oui, je sais, je crois que cela est totalement vrai. Les frustrations internes, comme j'avais dit, peuvent aussi donner des résultats comme cela et arriver à des situations difficiles à contrôler comme celles auxquelles on assiste aujourd'hui.
Merci, merci.
Voilà pourquoi, sans anticiper, je pense que, en dehors des réformes structurelles, messieurs les journalistes, qui viseraient la restauration de l'autorité de l'État, nous allons continuer à tourner en rond. Il ne faut même pas penser à intégrer les miliciens dans les FADC parce que cette réinsertion sociale vaudrait mieux, n'est-ce pas? Car une armée nationale ne peut être que des potoirs de miliciens. Et donc, cette solution-là, les DDRCS, jusque-là, on ne sait pas la suite par rapport à ce qui a été arrêté il y a plusieurs mois.
Merci, professeur.
Donc, tout ceci ramassé globalement, n'est-ce pas, ne peut pas trouver de solution qui soit durable pour la province de l'Ituri, en particulier. Mais l'Ituri, pas seulement l'Ituri, mais l'Est en général, pour qu'on arrive à une véritable paix durable à l'Est de la RDC.
Merci. Nous allons maintenant écouter les auditeurs qui sont en train d'appeler pour donner leur point de vue. Professeur Bungi Shabako Kato, vous allez réagir à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis Kolwezi dans les Lualaba.
C'est Patrick Mbouli Kassama depuis Kolwezi dans la province du Lualaba. Tant que quelqu'un vit grâce à la dégradation de la situation sécuritaire dans cette région, aucune paix durable n'est envisageable. Malgré les appels au dialogue, malgré les appels à déposer les armes, le gouvernement doit s'attaquer aux instigateurs de ces groupes armés qui sont identifiables et connus. Sur ce qui se passe dans la partie orientale de la RDC, il ne faut plus aller sur le dos de la cuillère. Il faut s'attaquer aux tireurs de ficelles qui sont bien connus, dont certains notables et autres dignitaires. Que ce soit les délinquants des EDF, M23 et autres, il suffit de couper la main qui les ravitaille, vous allez voir comment la situation sécuritaire va s'améliorer là-bas. Que les autorités, tant locales que nationales, arrêtent de courir derrière les événements. La solution à cette crise est connue. Le reste, c'est la distraction pure et simple.
Professeur Bungi Shabako Kato.
Ça aurait été ma prière si les choses étaient si simples, si faciles comme cet auditeur l'a dit. Mais je voudrais quand même parler positivement. Premièrement, il y a beaucoup d'efforts qui se font là, il faut reconnaître. Je crois que petit à petit, les Ituriens commence à comprendre la nécessité de se mettre ensemble. Ça, au moins, on peut le voir partout. Il y a des rencontres, il y a même quand vous entendez des déclarations des uns et des autres, c'est vrai, il y a eu un groupe là, un peu un radical, mais au moins, si je peux le dire, en tant qu'Itourien, la tendance générale, c'est tout le monde est assoiffé. Maintenant, on veut la paix. Nous voulons aller vers la paix. Il faut encourager cet effort-là. Et on peut voir toutes les associations, récemment même l'UNADI. L'UNADI, ça c'est l'association de toutes les communautés culturelles qui vivent à Ituri. Ils sont en train de travailler pour que nous puissions aller vers la solution. Je crois que là où nous sommes arrivés, si les Ituriens peuvent être en mesure d'écouter les douleurs les uns des autres, accepter que nous n'avons pas bien fait ensemble, corriger certaines inégalités, certains gestes d'injustice, certains déséquilibres qui ont créé cette situation, là, nous serons différents demain. Mais tout cela demande l'accompagnement ferme du gouvernement. Ici, il faut le reconnaître que nous n'avons pas bien fait en tant que gouvernement de la République, par exemple par rapport au PDDRCS. On a ouvert un cas d'écartonnement pour le milicien qui cherchait à déposer les armes. Mais on a senti qu'il n'y a pas eu accompagnement pour montrer à ces gens qu'il y a une vie de l'autre côté. La vie, ce n'est pas seulement tuer, piller, voler. On peut aussi aller de l'autre côté. L'éducation, elle est importante. Donc, les tireurs de ficelles, tout ce problème, même le problème entre les communautés, les frustrations, comme l'expert l'a dit, c'est tout à fait correct. Mais je crois que là où nous sommes en train de pousser actuellement, je vous l'annonce d'ailleurs, il y a un grand projet de recherche qui est en cours, qui traite justement de cette conscience collective. Donc, on a pensé que ce qui manque à Ituri, c'est surtout la promotion de cette conscience collective où les gens vont regarder vers la même direction, pas une communauté contre l'autre, parce que une communauté contre l'autre et ces fragmentations ont montré que ça ne peut pas nous aider à vivre ensemble. Merci. Donc, je préfère parler, en tant qu'Itourien, je préfère plutôt voir une lueur d'espoir et ne pas me dire que je suis plongé dans le noir. Nous ne sommes pas plongés dans le noir. Merci. En fait, ce problème n'a pas commencé avec nous. Nous l'avons hérité. Les missionnaires sont dedans. Ça a commencé bien avant. Même les colons, quand ils sont arrivés, ils ont donné l'avantage aux uns au détriment des autres. Et la frustration a continué à grandir pendant des années. Tous les gouvernements qui se sont succédés ne nous ont pas aidés à corriger. Je vous donne un exemple simple. Lorsque, par exemple, on donne à quelqu'un, il achète une concession pour garder ses vaches, un individu, 5 kilomètres carrés. Et dans les 5 kilomètres, on chasse 2-3 villages qui partent. Les villages partis, les enfants qui naissent et qui grandissent, on leur dit, ça c'était votre village, cette concession-là. Alors il faut redresser cela. Et merci. Là, il ne faut pas laisser aux individus de redresser cette question.
Merci,
le gouvernement
professeur.
Doit venir, parce que qui donne des documents pour ces concessions? C'est le gouvernement.
Merci. Merci. Donc, on comprend que certains problèmes, certaines questions ont été mal gérées, notamment les questions foncières. Et Dieudonné Lossa, vous allez réagir aussi à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis Kisangani dans la Tchopo.
Julien, il dit depuis Kisangani. Cette situation, jusqu'à quand va-t-elle perdurer? Où est l'autorité de l'État dans ces entités? L'État des sièges qu'on a prétendu pouvoir résoudre le problème a largement démontré ses limites dans le sens où il a connu un fiasco dans sa mise en application et nous souhaitons sa levée illico presto durant la législature nouvelle. Il faut par ailleurs que les autorités militaires regagnent leurs fonctions traditionnelles et que parallèlement les civils fassent idem. Également, le programme de désarmement qui est en souffrance actuellement, se doit d'être mis en pratique afin d'atténuer ces drames.
Dieudonné Lossa?
Oui, nous avons suivi l'auditeur qui a fait une analyse correcte parce que bientôt, il fera 3 ans depuis que l'état de siège est à vigueur à Ituri, au nord Kivu. Bientôt, il fera 3 ans. Vous allez vous souvenir de travaux de la table ronde où nous avions participé avec les autres membres de la communauté itourienne et du Nord Kivu. La demande était claire, celle de mettre fin à l'existence de l'état de siège. Mais le chef de l'État, jusqu'à ce moment, reste le seul à connaître pourquoi l'état de siège est encore maintenu dans les provinces de l'Est. C'est lui qui connaît. Et il avait même dit, après les travaux de la table ronde que l'état de siège sera levé graduellement. Donc, pour dire que pour la population de l'Est, on ne pouvait pas s'attendre à l'état de siège pour 3 ans. On ne pouvait pas s'attendre à tout ce que nous sommes en train de vivre, bien que nous sommes sous l'état de siège. Mais c'est malheureusement ce que nous vivons. Et c'est vraiment une frustration pour la population.
Merci, professeur Casimir Ngoumbi. Vous allez aussi réagir à la réflexion de l'auditeur qui appelle depuis la ville de Kinshasa.
Dédoné Chilombo de Kinshasa. Bonsoir Radio Capi, bonsoir à tous les auditeurs et auditrices de la Radio de la Paix. La situation sécuritaire dans la province de l'Ituri semble préoccupante avec la recrudescence des attaques de la milice Codeco et le représailles des groupes d'autodéfense compromettant ainsi les accords de paix précédemment signés à Aru. Cette escalade de la violence survient après une période d'accalmie relative dans les territoires de Djungu, illustrant le défi persistant en matière de maintien et de la sécurité et de consolidation de la paix. Quelques questions méritent d'être posées. Quelles sont les causes sous-jacentes de la recrudescence des attaques de la milice Codeco malgré les accords de paix précédemment signés à Aru? Quelles mesures de prévention et de résolution des conflits peuvent être envisagées pour stabiliser la situation sécuritaire dans la province de l'Ituri et protéger la population civile des violences des groupes armés?
Professeur Casimir Ngoumbi. Allô, professeur, est-ce que vous êtes là?
Je vous écoute très difficilement, monsieur le journaliste. Là.
Non, vous
suivez. Quelle est la question?
Oui, en fait, l'auditeur a posé des questions. Quelles sont les causes sous-jacentes de la recrudescence des attaques de la milice Codeco malgré les accords de paix précédemment signés à Aru? Quelles mesures de prévention et de résolution des conflits peuvent être envisagées pour stabiliser la situation sécuritaire dans la province de l'Ituri et protéger la population civile des violences des groupes armés? Voilà les deux questions qu'il vous a posées.
Oui, d'accord. Moi, je pense, monsieur le journaliste, c'est que l'Afrique traditionnelle renseigne plusieurs valeurs hein, qui peuvent être mises à contribution pour une véritable cohésion sociale. Mon collègue professeur en a longuement parlé, même Dieudonné Lossa aussi. Je crois que les gens doivent se mettre autour d'une table pour régler ces questions. Mais en même temps, il y a un effort de professionnalisation des FARDC qui diminuerait les abus pendant les opérations pour plus de collaboration avec la population. L'Ituri mérite mieux, messieurs les journalistes. L'Ituri, le Nord Kivu, qu'est-ce que ces deux provinces ont fait? Il faut ajouter le Sud Kivu. Moi, je pense que c'est possible que les choses reviennent à la normale. Mais j'ajoute, messieurs les journalistes, encore, la restauration de l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la République, elle est importante, elle est plus que nécessaire pour que l'État qui doit avoir le monopole de la puissance publique, la coercition de la puissance publique, puisse ne pas s'imposer afin de trouver, n'est-ce pas, comme j'avais dit l'autre fois, de trouver, n'est-ce pas, une paix durable. Je reviens encore sur ce que j'avais dit. Le processus électoral qui a commencé, les Ituriens ont besoin de s'autogouverner comme les autres provinces. Ces frustrations, n'est-ce pas, il faut les arrêter. Et tout de suite, pour que les choses aillent de mieux en mieux, et qu'on lève l'état de siège en Ituri. Et cela, je pense, et au Nord Kivu, cela, je pense, à mon avis, pourrait apaiser les esprits et nous conduire à une paix véritablement durable. Moi, je ne pense pas que notre armée soit incapable, n'est-ce pas, de bouter dehors l'ennemi si les civils revenaient au pouvoir dans ces deux provinces. Voilà, dans un premier temps, ce que je peux dire, monsieur le journaliste.
Merci. Nous allons conclure, professeur Bungi Chabakokato. Vous êtes notable du territoire d'Irumu. Vous êtes député national et professeur. Vous êtes spécialiste en théologie politique à l'université Shalom de Bounia et dans plusieurs autres universités dans les pays et à l'extérieur. Si on vous suit très bien, il y a deux niveaux, n'est-ce pas, des solutions. Le premier niveau, c'est au niveau de l'État, du gouvernement congolais qui doit solutionner cette question des répartitions, notamment des richesses. Mais aussi, il y a un autre niveau, c'est le niveau des populations, les fils de l'Ituri qui doivent avoir le courage de se parler et de déceler la cause de leur division. C'est ça le professeur Bungui.
C'est correct. Ça, c'est mon point de vue correctement présenté par vous. C'est-à-dire que nous ne serions pas arrivés là où nous sommes arrivés aujourd'hui s'il y avait un peu de volonté nous-mêmes d'être déterminés, de regarder de l'avant ensemble, de nous tenir main dans la main. On peut se tenir main dans la main même avec des larmes et des douleurs. Par exemple, le dernier massacre qui s'était passé, j'ai essayé d'appeler tous les amis, l'hindou que je connais, tout le monde est dans le désarroi. Ça a pris tout le monde par surprise. Tout le monde est un peu froissé, quoi. Comment on peut encore en arriver jusque-là? Bien sûr, le problème, pour ceux qui connaissent l'Ituri, lorsqu'il y a un événement comme celui-là, je ne le dis pas pour choquer les autres, il faut toujours aller analyser ces phénomènes de façon isolée, c'est-à-dire qu'est-ce qui est arrivé, quel est ce groupe, parce qu'on me dit que c'est un groupe isolé qui a tué, quel est ce groupe-là et qu'est-ce qui l'a provoqué. Souvent, dans la brousse-là, nous ne sommes pas ensemble là-bas, il y a beaucoup de provocations à gauche et à droite, tel a tué les frères de tel, moi je veux me venger, ainsi de suite. Donc, nous devons avoir ce courage, mais d'être ensemble, de nous regarder dans les yeux, de nous asseoir ensemble. Mais le gouvernement a aussi accepté de nous accompagner. Non, en tout cas, on n'aura pas de solution si le gouvernement ne prend pas ça comme une priorité. Comment accompagner les militaires qui désarment et même sur les communautés en profondeur pour qu'on cherche ensemble la voix de ces troubles dans lesquels
vous. Merci Dieudonné Lossa, vous êtes coordonnateur de la société civile de l'Ituri. Dans votre intervention, vous revenez souvent sur le fait que même si la famille n'arrive pas à s'entendre, même si les fils de la province n'arrivent pas à trouver une solution, les parents peuvent s'impliquer. Et quand vous parlez des parents, vous faites allusion au gouvernement congolais. Et quelles sont les recommandations que vous feriez au gouvernement congolais pour que la paix et la stabilité soient effectivement vécues dans cette province de l'Ituri?
Nous avons constaté que le problème de l'Ituri n'est pas traité comme le problème des autres provinces par l'État congolais. Vous allez comprendre avec nous que déjà on a désarmé l'Ituri, on a ramené tous les militaires qui devaient sécuriser l'Ituri, on les a amenés parce qu'on doit aller protéger, n'est-ce pas, le Nord Kivu contre l'évasion de Rwanda. Tout à fait d'accord. Mais est-ce que toute l'armée de RDC est concentré là-bas pour laisser l'Ituri vide? Parce que ça, c'était problème. Les gens meurent tout le temps. Nous n'avons même pas encore reçu un message du gouvernement national, ne fût-ce qu'un message de condoléances par rapport à ce qui se passe. Ça frustre la population de l'Ituri. À ce moment, nous, la population de l'Ituri, nous attendons une délégation gouvernementale pour compatir avec ces familles qui ont perdu les leurs dans cette condition. Et si l'État peut aussi faire attention par rapport à ce qui se passe à Ituri, je crois qu'on peut à ce moment-là arriver à résoudre ces problèmes. S'il y a des problèmes, l'État qui est le parrain des populations de l'Ituri, si l'État se met au milieu, je crois qu'il n'y a pas une affaire qui peut outrepasser ce que dirait son parrain.
Merci, professeur Kazimi Ngumbi. Vous êtes politologue et expert dans les domaines des violences politiques et des groupes armés. Vous reveniez souvent sur la restauration de l'autorité de l'État. Et on sait que c'est un long processus. Hein. C'est depuis plusieurs années que ce chantier, n'est-ce pas, a été initié. Et à votre avis, pourquoi ce processus peine à aboutir aux résultats escomptés, la restauration de l'autorité de l'État?
Oui, mais je pense qu'il n'y a pas de sincérité hein, dans les différents accords qu'on signe. Moi, personnellement, je viens d'identifier et de revenir sur l'accord signé entre l'UPF et les FRDC. Hein. Plus cette sincérité ne sera pas mise à la place publique, et moins la paix reviendra. J'ai l'impression que les uns et les autres doivent être sincères lorsqu'ils signent des accords pour restaurer la paix. Le Congo doit compter sur lui-même d'abord avant de compter sur les autres acteurs, particulièrement les étrangers. Aucun étranger ne viendra restaurer la paix dans notre pays. Seul le Congolais sera capable de le faire. Et je reviens encore sur le fait que le processus électoral a commencé, a démarré. Nous sommes arrivés à un point fort où les Ituriens doivent aussi être capables de s'autogérer au niveau de la désignation ou de l'élection le responsable de cette province de l'Ituri et du Nord Kivu, pourquoi pas. Alors, cette autonomisation par rapport à l'avenir de cette province vaut beaucoup plus. Et j'ai épinglé aussi les valeurs traditionnelles, l'art de la palabre. Les Ituriens ne sont pas totalement, ils ne sont pas devenus des démons ou des diables pour ne pas s'entendre. Et donc, toutes ces influences extérieures empêchent les Ituriens de se mettre ensemble autour d'une table pour trouver des solutions qui soient durables. Moi, je pense que c'est à ce niveau-là que nous pouvons voir si les étudiants ne sont pas capables eux-mêmes de se prendre en charge, ou encore, ce que j'avais dit l'autre fois, il faut que l'État restaure véritablement son autorité, si pas du tout, alors nous allons continuer à pleurer les morts, inutilement.
Merci, merci, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous d'avoir accepté d'y participer. Professeur Bungi Shabako Kato, Monsieur Dieudonné Lossa et Professeur Casimir Ngumbi. Merci également à Kelly Nkouté et Alain Ngoy, Hervé Voka et Clément Chimanga qui m'ont, n'est-ce pas, accompagné dans cette émission, et aussi à Martin Sevoujan qui a supervisé cette émission. À la présentation, Guy Maté. Merci une fois de plus et bonne suite de programme sur Radio Capi.